La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Jeudi, des parents d'élèves s'étaient rassemblés devant l'entrée du collège Surcouf de Saint-Malo pour protester contre la fermeture annoncée de cet établissement. Appelés par le recteur d'académie, les forces de l'ordre sont intervenues pour les déloger, blessant du même coup une dizaine de collégiens, dont trois furent hospitalisés suite à des fractures et luxations. Interpellé par le maire de la ville, le préfet a déclaré que l'usage de la force avait été strictement proportionné aux circonstances. Prenant connaissance de ces faits choquants, on se surprend immédiatement à se demander si les choses se seraient passées différemment, si cet événement ne prenait pas place dans une séquence qui voit se multiplier depuis plusieurs semaines des incidents, parfois graves, provoqués par les forces de police lors d'opérations de maintien de l'ordre. On pense ainsi à ce qui s'est passé non loin de Saint-Malo, ce même jeudi, à Rennes, où la police a cru bon mener la charge en voiture et à vive allure contre des manifestants tentant de bloquer la rocade. À Rennes, où des journalistes portant des casques estampillés presse ont été sciemment frappés à coups de matraque. On pense aussi bien sûr à Romain D., jeune homme de 28 ans dans le coma depuis le jeudi précédent, le 26 mai, après avoir été atteint à la tempe par l'un des galets de plastique que contient une grenade de désencerclement lancée par un policier d'une compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris, ainsi que l'établit le journal Le Monde dans son édition du 2 juin. Face à ces faits, récemment recensés par Mediapart, qui dénombre des dizaines de manifestants blessés par les forces de l'ordre depuis 2 mois et demi et le début de la mobilisation contre la loi travail, on se surprend à tendre l'oreille pour entendre l'écho de cette phrase prononcée par le Premier ministre Manuel Valls le 19 mai sur RTL. Il n'y a aucune consigne de retenue, aucune consigne de ne pas interpeller, aucune consigne de ne pas aller jusqu'au bout pour appréhender les casseurs. L'absence revendiquée de retenue pour la police, voilà ce qui nous occupera aujourd'hui à la suite dans les idées en compagnie de Cédric Moreau de Bellin, auteur d'une enquête magistrale de retenue sociologique sur les violences policières. Cédric Moreau de Bellin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc sociologue, maître de conférence à l'École normale supérieure, membre du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités, le LIER, et vous publiez aux éditions Economica, dans cette belle collection études sociologiques, Force publique, une sociologie de l'institution policière. J'aimerais qu'on reparte de la phrase du préfet d'Ille-et-Vilaine que je citais à propos de ce qui s'est passé à Saint-Malo. Un préfet qu'on entend dire que l'usage de la force était strictement proportionné aux circonstances. Au fond, une fois qu'on a refermé votre livre, on se dit que cette phrase n'est pas très surprenante parce que finalement, la police, même quand elle enquête elle-même sur ses dérives, des incidents de ce type, a beaucoup de mal à qualifier ce qui s'est passé en termes de décisions publiques, de décisions techniques. Quand il y a un problème, c'est toujours du fait d'une personne qui n'est pas bien formée ou qui tombe dans l'illégalité, mais jamais à cause d'un dispositif, du choix, d'une méthode employée par la police. Donc cette phrase, au fond, elle est emblématique de ce discours de réponse des pouvoirs publics lorsqu'on se trouve dans cette situation d'incident.
Là, effectivement, c'est une phrase qui n'est pas très surprenante d'un point de vue sémantique, puisque le préfet reprend des termes que l'on retrouve traditionnellement dans un certain nombre d'enquêtes, notamment des enquêtes conduites par les inspections générales de la police nationale. Là où c'est davantage surprenant, c'est que généralement, ces mots sont utilisés précisément à la suite d'une enquête. On peut estimer que là, l'enquête n'a pas encore eu lieu et des déclarations que j'ai lues, il semblerait que le préfet s'appuie avant tout sur une interprétation qui pourrait prêter à contestation d'ailleurs, des images qui ont été diffusées de la scène et de l'intervention de policiers qui ne sont pas des policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre, mais qui ont été envoyés pour rendre accessible cette école qui était bloquée par des parents d'élèves et des collégiens. Ceci étant, effectivement, cela pointe un élément central lorsqu'il est question de l'usage de la violence par la police, c'est la question de sa proportion. Le droit encadre relativement peu l'usage de la force par la police, et il l'encadre relativement peu parce que c'est très difficile de le faire à partir du moment où une société, un État décide de confier à une institution le droit d'user de la force.
Et le monopole de cet usage.
Absolument.
Parce que c'est la définition même de l'État classique.
Voilà.
Donné par Max Weber.
Qui tend effectivement à revendiquer cette monopolisation. Lorsque cet État le fait, il ne peut pas définir au préalable le foisonnement, la richesse des types d'interventions auxquelles les policiers vont être confrontés. Donc le droit se contente d'un certain nombre de principes qui doivent ensuite être traduits dans des normes professionnelles. Et là, c'est le travail effectivement des institutions, des formes intermédiaires dans l'institution, dans des dispositifs, des doctrines d'emploi, que de s'assurer de cette proportionnalité, de cette nécessité. Donc la notion est effectivement constamment présente, mais reste que les conditions exactes de l'usage de la force méritent régulièrement investigation.
Alors vous avez mené une enquête, mais une enquête sociologique, sur cette force publique, ces usages de la force publique, et vous avez procédé, en fait vous avez mené deux enquêtes, on peut dire. L'une concerne une école qui n'existe plus, mais qui a joué un rôle important de formation des policiers à Paris, et puis l'autre enquête, plus importante, qui vous permet de d'écrire ce livre, Force publique, c'est une enquête menée sur des enquêtes qui, elles, ne sont pas des enquêtes sociologiques, mais des enquêtes de la police sur la police. Des enquêtes de cette fameuse inspection générale des services, hein, la police des polices, comme les médias l'appellent, et qui se trouve saisie quand il y a des plaintes déposées contre la police, ou quand même la police elle-même estime qu'il y a besoin de savoir ce qui s'est passé quand les choses paraissent troubles ou peu claires et qu'il s'agit d'enquêter. Donc vous avez travaillé sur la manière dont les policiers regardent eux-mêmes leur travail. Alors pas tous les policiers, certains policiers qui sont chargés de faire ce travail. Comment vous avez concrètement mené cette enquête sociologique, Cédric Moreau-de-Bellin ?
Alors, cette enquête a été rendue possible par l'accord qui m'a été donné par le directeur de l'IGS de l'époque, d'être, d'une certaine manière, d'être reçu par un des cabinets d'enquête disciplinaire sur un temps relativement long pour pouvoir effectivement assister concrètement à la routine du travail des inspections générales, en l'occurrence de l'inspection générale des services, qui avait, puisqu'elle a été depuis intégrée à sa grande sœur, l'inspection générale de la police nationale, mais qui, à l'époque de l'enquête, portait sur Paris et les trois départements de la petite couronne. Donc j'ai été, d'une certaine manière, affecté à un des cabinets d'enquête disciplinaire, et ça a été effectivement une mine de matériaux ethnographique, puisque j'ai eu accès à un certain nombre de documents internes, j'ai eu l'occasion d'assister à des auditions de personnes venant porter plainte, de policiers mis en cause, et puis j'ai aussi eu accès à certains dossiers disciplinaires clos, ce qui m'a permis effectivement de nourrir mon enquête avec différents types de matériaux et sur un temps relativement long.
Alors, la plupart des faits sur lesquels vous avez travaillé ne se rapportent pas à des situations de maintien de l'ordre comme celles dont nous parlions au début d'émission, qui sont dans l'actualité, parce que des dysfonctionnements, des bavures entre guillemets, des dérapages, quels que soient les mots qu'on utilise, il y en a de différentes sortes compte tenu de la variété du travail policier. D'ailleurs, vous rappelez au début de votre livre que, en fait, cet objet est un objet assez présent dans la vie sociale. Il vous est, pendant que vous étiez en train d'enquêter sociologiquement sur ces questions, fréquemment arrivé d'entendre des témoignages ou d'être vous-même témoin de choses qui se rapportaient directement à ce que vous cherchiez à étudier, Cédric Moreau-de-Bellin.
Effectivement, quand on travaille sur un objet de cet ordre et qu'on en discute avec des amis ou avec des gens qu'on rencontre, ça suscite très rapidement des anecdotes, des petites histoires que l'on a vécues ou que des proches ont vécues. Et ces histoires renvoient quasi systématiquement à des usages de la force. De fait, les dossiers qui sont portés à la connaissance de l'inspection générale des services dépasse très largement le cadre de l'usage de la violence. Les officiers qui enquêtent sur d'autres policiers
Il peut y avoir des affaires de corruption, on en a eu récemment dans les journaux. Ouais,
absolument.
Et de grande ampleur.
Des affaires en cours, effectivement, de grande ampleur. Il y a aussi des affaires de corruption de plus petite ampleur. Un certain nombre de dysfonctionnements, de fautes professionnelles internes, des comportements avec le public, des policiers qui occupent un travail supplémentaire alors que c'est interdit. Donc ils ont une palette de déviance qui est plus large que la question de la violence.
Mais vous êtes intéressé vraiment à ces questions de violence. C'est un objet dans l'objet, en quelque sorte.
En fait, comme vous le disiez, cette question a surgi d'elle-même très vite, à la fois dans ses narrations, dans ce à quoi j'ai pu assister et les choses qui ont pu jouer un rôle dans le fait que j'ai travaillé sur ces questions. Et puis en réalité aussi, en fait, quand j'ai commencé mon enquête à l'inspection générale des services, une des premières choses que j'ai faites, c'est de lire les rapports annuels d'activité que l'inspection établit chaque année sur les 12 mois qui viennent de s'écouler. Et effectivement, très rapidement, on constate qu'il y a un écart assez fort entre le nombre de plaintes déposées pour violences illégitimes et le nombre de sanctions prises pour ces violences. Et comme cet écart est assez notable, il s'impose comme une piste à explorer. Par ailleurs, effectivement, on le signalait tout à l'heure, l'institution policière est tributaire en sociologie de la définition weberienne de l'État, qui renvoie très directement à l'usage de la force, en tout cas celle qui est connue d'économie et société, mais il y en a d'autres, mais celle-là renvoie à la question de l'usage de la contrainte.
Peut-être d'ailleurs plus en France que dans d'autres pays. Moi, j'ai toujours trouvé frappant de voir que les policiers dans la rue en France étaient armés, que d'ailleurs on se posait la question dans le débat public depuis quelque temps de la nécessité ou non d'armer des policiers municipaux. Mmh. Alors même que, quand la gauche a été élue en 1981, figurait au programme plutôt l'idée de désarmer la police sur le modèle britannique, hein, ou le fameux Bobby britannique, lors même qu'il y avait des risques de terrorisme assez importants liés à l'Irlande du Nord, n'était pas armé dans la rue. Donc il y a aussi une culture professionnelle nationale, sans doute, du rapport à la violence qui varie d'un contexte à l'autre.
Oui, et puis des outils qui sont censés l'incarner, c'est-à-dire que le cas anglais est effectivement intéressant, les bobbies, comme on les a longtemps appelés, ne disposent pas d'armes à feu, alors que c'est une prérogative effectivement de la police nationale. Vous mentionniez les débats autour de l'armement des polices municipales. C'est au ministère de l'Intérieur de valider les demandes des maires qui veulent armer leur police municipale. Et vous avez un certain nombre de responsables policiers qui sont hostiles, précisément parce que c'est un des signes distinctifs qui sépare
la vraie police
nationale des polices municipales. Ceci étant, il est aussi intéressant de constater que malgré ce rapport privilégié à l'arme à feu, les policiers français usent très peu de ces armes à feu. Et lorsque il arrive que... Alors, il faudrait faire varier cette affirmation en fonction des services, en fonction des corps. Mais lorsqu'il arrive que, comme récemment, un policier en civil qui surveille un des cortèges des manifestations contre la loi travail sorte son arme, alors... Ça n'a pas donné lieu à un scandale public, mais ça a donné lieu quand même à un certain nombre de discussions et de contestations qui signalent bien que ce sont des événements relativement rares. De fait, la grande majorité des plaintes qui étaient déposées à l'inspection générale des services concernant l'usage de violences illégitimes concernaient pas des usages d'armes à feu. Encore que, il est intéressant de noter que lorsque je suis arrivé sur le terrain, un des enquêteurs est venu me voir et il m'a dit « Vous devriez vous intéresser à un certain nombre de dossiers, à ces dossiers. » Il m'en a suggéré deux et c'était des dossiers qui impliquaient un usage de l'arme à feu.
Pour terminer sur cette question de l'arme à feu, il y a eu aussi le débat après les attentats du mois de novembre qui portait sur la possibilité pour les policiers hors service de conserver leur arme. Et on prenait cet exemple de ce policier qui se trouvait dans la salle de concert du Bataclan pour justifier en quelque sorte ce changement. Voilà, donc ça c'est une question qui demeure extrêmement importante. Donc vous vous êtes intéressé principalement à la question de la violence, mais je voudrais revenir sur l'écart que vous signaliez tout à l'heure qui finalement justifie à lui seul qu'on se pose des questions. Comment expliquer qu'il y ait aussi peu d'affaires dont est saisie l'inspection générale des services qui se termine par des sanctions. Est-ce que cela veut dire que, au fond, celles qui ne sont pas sanctionnées ou ceux qui ne sont pas sanctionnés n'ont pas commis d'illégalité? Est-ce que vous avez observé des régularités, des récurrences qui permettent, au fond, de prédire l'avenir d'un dossier avant même qu'il soit jugé par l'IGS?
Toujours se méfier avec la prédiction. Mais ceci étant, effectivement, l'enquête a permis de mettre en évidence un certain nombre d'éléments. Le premier étant que l'écart entre le nombre de dossiers déposés pour violence illégitime et le nombre de sanctions prises pour ces mêmes faits est redoublé par un autre écart, puisque l'écrasante majorité des plaintes déposées pour violence concernent des faits qui sont supposé avoir été commis en service, alors que la grande majorité des sanctions prises pour des faits de violence concernent des violences commises par des policiers, alors qu'ils n'étaient pas en service. Donc il y a ce double écart qui était effectivement interpellant. Bon, il aurait été possible de tirer des conclusions de cet écart. J'ai essayé pour ma part, de comprendre quelles sont les raisons pratiques qui font que cet écart existe. Or, cet écart existe parce que il est le résultat d'un certain nombre d'enquêtes qui manifestement n'aboutissent pas. Donc, j'ai essayé de suivre les opérations pratiques qui composent les enquêtes sur violence illégitime. Et donc, j'ai essayé de la manière dont les enquêteurs cherchent à partager ce qui relève de la violence légitime et ce qui relève de la violence illégitime. Ce qui m'est apparu, c'est que trois étapes semblaient essentielles dans l'enquête pour permettre, une bifurcation. Et ces trois étapes, je les mentionne rapidement, c'est l'attestation par une unité médico-judiciaire de l'atteinte alléguée, la demande de communication par les officiers de l'IGS de la procédure qui est en cause pour voir si dans les textes les policiers de l'IGS peuvent repérer des choses qui leur indiquent qu'effectivement un acte malveillant a été commis et a fait l'objet d'une dissimulation, et la recherche d'un tiers, d'un témoin qui serait ni un ami du plaignant ni un autre policier qui pourrait, depuis sa position d'extériorité, orienter l'enquête. Le problème, c'est que il est très rare que ces étapes permettent effectivement d'établir avec certitude que la violence commise était illégitime.
Le troisième critère doit être assez difficile à établir.
Le troisième critère est extrêmement
trouver.
Le troisième critère est vraiment rare, c'est-à-dire que dans toutes les enquêtes, on voit que les officiers cherchent des témoignages, mais c'est très rare qu'ils en obtiennent. Pour la raison qu'a indiqué la sociologie de la police, qui est que la violence a d'autant plus de chances d'avoir lieu qu'on se trouve dans une situation de face à face. Et donc, sans...
Petite parenthèse d'actualité, on a vu aussi des policiers demander expressément, exiger que des photographes suppriment leurs photos récemment dans des opérations de maintien de l'ordre. Donc,
absolument.
On a la suppression du tiers.
On a la suppression du tiers et on a la question que j'essaie d'explorer dans le livre de la publicité de l'action policière qui est à la fois un principe central des polices dans les États contemporains, qui est un objet de tension dans l'activité policière et qui est à mon avis aussi un point d'appui très riche pour la critique de l'institution policière.
Alors ce qui ressort de votre enquête, c'est que l'inspection générale des services est très attentive à tous les cas dans lesquels des policiers, au fond, privatisent la force publique. Donc ces cas de figure dont vous parliez tout à l'heure, de policiers hors service qui vont utiliser en quelque sorte leur statut de policier alors même qu'ils ne sont pas en situation de travailler. Et ça, elle est extrêmement sévère à ce propos-là, comme s'il fallait absolument garantir ce monopole de la violence pour l'État et donc pour les agents de l'État en service. Les agents de l'État qui ne sont pas en service ne sont pas tout à fait des agents de l'État, ou même pas des agents de l'État. Et donc là, il y a une frontière extrêmement, je dirais, qui est scrutée par les enquêtes. En revanche, les enquêtes ont, semble-t-il, beaucoup plus de mal à s'interroger sur des situations dans lesquelles ces agents de l'État sont en service, et même, je dirais, obéissent à des ordres qui leur sont donnés par des supérieurs pour agir d'une manière qui peut apparaître pour autant comme illégitime. En revanche, donc ça, on voit que ces cas-là sont beaucoup plus difficilement interrogés, comme si, au fond, dès lors qu'on était dans le cadre, tout ce qui pouvait se passer dans le cadre ne posait pas en soi problème.
Oui.
Je caricature.
Pas tant que ça. Ce que j'ai essayé de faire en travaillant à partir de l'inspection générale des services, c'est de considérer que ce que les services de contrôle interne décident de sanctionner et ce qu'ils décident de ne pas sanctionner renseigne sur ce qui doit être préservé dans la fonction policière, dans l'activité policière, et ce qui est probablement secondaire, ou en tout cas ne risque pas de porter durablement atteinte à l'institution. Or, il faut bien constater qu'effectivement, la question de l'usage de la violence en service, commise par des policiers en service, ne semble pas être un point considéré par les inspections, par les personnes qui peuplent ces inspections, comme étant susceptible de porter durablement atteinte à l'institution policière. En revanche, les formes de violence qui sont commises par des policiers qui se trouvent hors service, ou des formes de violence qui sont absolument disproportionnées, on retrouve les termes du débat du début, comme des cas de quasi-torture, ces faits-là sont effectivement lourdement sanctionnés, parce que, à leur manière, dans les deux cas, ils ne peuvent pas être ramenés au périmètre du domaine légitime de l'usage de la force publique. Concrètement, lorsque on parle de violences privées de policiers, ce sont des policiers qui frappent leur conjointe, leur ex-conjointe, et qui sont sanctionnés administrativement pour ces faits. L'institution, les instances de contrôle interne semblent considérer que ce qui est condamnable dans ces coups, c'est certes les coups, mais c'est aussi le fait que ces coups ne sont en aucun cas susceptibles de relever de l'usage légitime de la force publique. Donc, il y avait peu de dossiers qui aboutissaient devant un conseil de discipline pour des faits de violence, mais je les ai quand même suivis jusqu'au bout pour comprendre en fait ce qui dedans était sanctionné. Et mon hypothèse, c'est celle-là, c'est que la plupart la quasi-totalité en fait des faits de violence qui sont tout de même traduits devant des conseils de discipline sont des faits de violence qui impliquent d'une manière ou d'une autre une privatisation de l'action policière, une privatisation de l'usage de la force, que ce soit à des fins privées ou lorsqu'on est dans les rares cas de violences commises en service qui sont tout de même sanctionnées. Ce que l'on constate dans les enquêtes, c'est que progressivement, on assiste à une personnalisation de la faute, c'est-à-dire que ce n'est plus un agent de la force publique qui a utilisé la force, mais c'est une personne qui s'est égarée, qui est fatiguée, qui n'a pas été bien formée, qui du coup engage moins, disons, l'institution.
Ça, c'est très très étonnant, parce que je ne sais pas si on peut procéder à des comparaisons avec d'autres services d'inspection, d'autres ministères. Je pense qu'on trouverait dans d'autres inspections, d'autres ministères, des mises en cause de politiques publiques, des mises en cause de dispositifs qui renvoient au-delà des personnes, je dirais, à la critique de la manière dont l'État choisit d'agir. Or là, on n'en a jamais. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une boîte noire et ça laisse une latitude assez grande au comportement du coup des policiers. Et on peut se poser la question, puisque je citais aussi les propos du Premier ministre en ouverture de cette émission, qui disait donc aucune retenue. Quand on a au plus haut sommet de l'État des propos qui, s'agissant du maintien de l'ordre, disent qu'il n'y a aucune retenue à avoir, on peut se demander les effets en cascade que cela peut avoir jusque sur le policier qui se trouve sur le terrain face à des manifestants.
Effectivement, on peut se demander, et on est obligé du coup de faire reposer notre confiance sur les normes professionnelles internes de l'institution qui va amener les cadres de l'institution policière à à amortir un peu le poids de ces déclarations.
Oui. Tout est permis. Non, il va se trouver des policiers professionnels pour expliquer à leurs hommes que, contrairement à ce que dit le Premier ministre, tout n'est pas permis, quoi. Je caricature encore.
Il faudrait aller voir, mais c'est probable, c'est souhaitable aussi. Alors, quittons un instant l'inspection générale des services pour aller sur la critique des dispositifs. En fait, cette question est prise en charge par l'institution policière elle-même. Alors c'est une anecdote qui est très parlante. Peut-être aurez-vous remarqué que les compagnies républicaines de sécurité ont deux bandes jaunes sur leur casque. Ces deux bandes jaunes, les responsables des CRS les ont demandées au lendemain de mai 68 pour que le public puisse davantage faire la différence entre leurs interventions et l'intervention d'autres services qui sont moins spécialisés dans le maintien de l'ordre, mais qui sont tout de même mobilisés sur des situations de maintien de l'ordre, comme les compagnies de district, les compagnies d'intervention, dont les CRS considèrent que leur
pratique... n'ont pas les mêmes compétences professionnelles.
Voilà. Ouais. Alors, il ne s'agit pas de dessiner un espace policier où les compagnies républicaines de sécurité seraient en réalité extrêmement habiles dans la rétention de l'usage de la force, alors que les compagnies d'intervention seraient de l'autre côté du spectre. C'est probablement plus compliqué que ça. Ceci étant, pour ne reprendre que l'exemple de que vous mentionniez en introduction, l'exemple de la charge sur la rocade de Rennes, c'était des compagnies d'intervention. Donc, il y a à l'intérieur de l'institution policière des formes de contestation de dispositifs et de types de normes professionnelles.
Merci beaucoup, Cédric Moreau de Bellin, pour ces propos et ce livre qui tombe à pic pour mieux comprendre ce qui se passe avec l'usage de la force publique. Force publique, c'est le titre du livre, une sociologie de l'institution policière. On a compris que c'était une critique minutieuse, appuyée sur un travail d'enquête, loin des jugements à l'emporte-pièce que ce livre qui paraît aux éditions Economica. On trouve les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, où vous pouvez également podcaster l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, c'est Étienne Klein que vous retrouvez pour la conversation scientifique.